Radio Kapi.
Au sommaire de ce journal, la CENI amorce un tournant crucial du processus électoral dès le mois de décembre prochain avec l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. L'annonce a été faite ce mercredi à Kinshasa par le président de la centrale électorale au cours du cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques. À Ituri, 34 personnes sont mortes dans des attaques des miliciens de la Codeco ayant ciblé hier mardi des villages dans les territoires de Djougou et de Mahagi. Des voix s'élèvent pour condamner ces tueries injustifiées en violation de l'engagement de ces groupes armés en juin dernier pour la cessation des hostilités en Ituri. L'invité de ce journal est le coordonnateur du pool Grand Kassai de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Damien Tombilangane rassure que la province du Kassai central peut avoir du courant électrique dans 18 mois à partir de la chute Mombo à 17 km de Kananga. Avant le développement de ce titre, sachez tout d'abord que le mini-sommet de Luanda a eu lieu en l'absence du président rwandais Paul Kagame, qui s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta, affirme la presse présidentielle congolaise dans un communiqué. On prit part à ce mini-sommet le président angolais João Lourenço, le président burundais Evariste Ndayishimiye, le président de la RDC Félix Tshisekedi, ainsi que l'ancien président du Kenya Uhuru Kenyatta. Plusieurs recommandations sont attendues de ce sommet, notamment la cessation des hostilités et le retrait du M23 et de l'armée rwandaise, indique la même source. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La CENI amorce un tournant crucial du processus électoral dès le mois de décembre prochain avec l'opération d'identification et enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo. Le président de la centrale électorale l'a annoncé au cours du cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques ce mercredi au Palais du Peuple, ici à Kinshasa. En même temps, Denis Kadima a annoncé la fin des épreuves de la cartographie électorale et la publication du calendrier électoral samedi 26 novembre. Près de 50 millions d'électeurs sont attendus à cette opération. On écoute Denis Kadima face aux délégués des formations politiques. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Pour l'ensemble de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, 29 700 kits ont été commandés et vont principalement fonctionner à l'énergie solaire dans les 22 271 centres d'inscription. Concernant la première aire opérationnelle, donc l'ouest et le nord-ouest, la CENI a prévu un peu plus de 10 000 kits pour couvrir 10 provinces. Nos équipes techniques viennent de vous faire la démonstration de la fonctionnalité du dit kit qui va permettre l'enregistrement de près de 50 millions de Congolais. La durée de l'opération est de 30 jours par aire opérationnelle. Il est important que vous puissiez mobiliser vos militants, mais aussi la population assez athée, car le temps nous est compté. Ceux qui détiennent les anciennes cartes d'électeurs peuvent se présenter avec le numéro de leur carte pour une prise en charge rapide de leurs données personnelles. Notre objectif est de générer un fichier électoral fiable, inclusif, exhaustif, sécurisé, qui devrait constituer une base solide, utilisable pour les opérations d'identification nationale et de recensement.
Toujours dans le même cadre de ces concertations, demain jeudi, le président de la CENI, Denis Kadima, se livrera au même exercice avec les délégués des organisations de la société civile, dont les confessions religieuses, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les responsables des médias. Ainsi dit, le train des élections démarre le mois prochain avec cette opération de l'établissement d'une nouveau fichier électoral fiable et inclusif, selon le président de la Commission électorale nationale indépendante. S'adressant aux délégués des partis et regroupements politiques au cours du cadre de concertation ce mercredi à Kinshasa, Denis Kadima les a tous invités à s'y impliquer. Comment les partis politiques réagissent à cette annonce et avec quelle suggestion? Reportage de Jeff Ngoy.
Si tout le monde presque accueille favorablement et frénétiquement le message du président de la CENI, il ne manque pas pour autant de suggestions à faire pour une meilleure tenue des scrutins, notamment éviter les infiltrations. Comment éviter l'action nationale pour le changement intégral ANCI, partie de la majorité au pouvoir de Madame Tshala Véronique Elisabeth.
Les dernières élections, les députés ont déploré beaucoup d'infiltrés. Il y a eu beaucoup d'enregistrements de non-Congolais. On a cité les Mbororo, on a cité les Rwandais, les Burundais. Maintenant, moi je pense que cette fois-ci, retenir l'ancienne carte d'électeur parmi les documents, moi je pense que c'est une erreur grave parce que les mêmes infiltrés vont encore être infiltrés ici.
Jean Yeshua Kingela du MSR de l'opposition.
Il y a encore des coqs à jambes au sein du bureau de la CENI, conformément à notre agenda de l'opposition. Les élections 2023, c'est point déjà à l'horizon. Nous devons quand même se conformer, pousser à ce régime d'organiser les élections dans les délais. Il appartient maintenant à la CENI de prendre ses responsabilités comme nous venons de constater aujourd'hui.
Les parties prenantes à ce processus refusent les élections sans le Nord Kivu et l'Ituri en proie à la guerre qu'il faut à tout prix d'abord terminer.
Et puis, une vive tension s'est observée ce mercredi à Bukavu entre les députés provinciaux et l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu. Certains députés ont signé une motion de censure contre le gouvernement provincial au moment où un autre groupe de députés demande la déchéance du bureau définitif de l'Assemblée provinciale. Des détails avec Emmanuel Elamejoua Kabedi.
Le tout est parti d'une motion de censure contre le gouvernement provincial du Sud-Kivu par un groupe de députés provinciaux. Lundi 21 novembre, le vice-président de l'Assemblée provinciale affirme avoir transmis la notification au gouverneur de province pour sa défense devant les députés pour ce jeudi 24 novembre 2022. Quelques heures après, un groupe de députés provinciaux dépose une pétition contre deux membres du bureau définitif, dont le vice-président et le rapporteur. Mardi 22 novembre, d'autres députés provinciaux déposent eux aussi une autre pétition, cette fois-ci contre le président et le questeur. Du coup, la confusion s'installe. Le rapporteur adjoint instruit le directeur de l'Assemblée provinciale de convoquer une plénière ce mercredi pour installer le bureau d'âge, ce qui fâche un autre camp de députés pétitionnaires. Déjà, tôt le matin de ce mercredi, une vive tension s'observe devant l'Assemblée provinciale à Bukavu. Des jeunes gens manifestent et brûlent les pneus en présence des éléments de la police. Signalons que l'année dernière, la même situation avait prévalu entre le gouvernement et l'Assemblée provinciale, toujours en pareille période de fin d'année. Emmanuel Elamejoua Kabedi, Bukavu Radio Kapi.
La suite de cette tension, un groupe de députés provinciaux s'est retiré et a tenu une plénière dans un lieu secret au cours de laquelle ils ont installé un bureau d'âge pour statuer sur les pétitions et motions. Il y aurait eu des arrestations de certains députés par les services de sécurité immédiatement après cette plénière délocalisée. En Ituri, je le disais au sommaire, 34 personnes sont mortes dans des attaques des miliciens de la Codeco ayant ciblé hier mardi les villages d'Oké dans les territoires de Djougou, Chaba et Guélé dans celui de Mahagi. Selon des sources concordantes, d'autres personnes ont été blessées et enlevées par ces assaillants et les dégâts matériels sont énormes. Des voix s'élèvent pour condamner cette tuerie injustifiée en violation de l'engagement de ce groupe armé en juin dernier pour la cessation des hostilités en Ituri. Des détails avec Isaac Remoyopi.
La première attaque de la milice Codeco s'est produite mardi matin dans deux villages, Chaba 2 et Guélé, dans la chefferie des Angales, dans les territoires de Mahagi. Ces miliciens ont occupé ces deux entités pendant presque toute la journée en tirant des coups de feu. Des sources concordantes avancent un bilan de 8 morts, dont 5 enfants de moins de 12 ans et un blessé et un déplacement massif de la population. La deuxième attaque a été déplorée le même mardi vers 15h30 au village de Oké, dans la chefferie des Baïma Nord, dans les territoires de Djougou à la lisière de celui de Mahagi. Selon des sources de sécurité, 26 civils ont été tué par un groupe de miliciens de la Codeco. Parmi les victimes, il y a 7 enfants, dont 4 filles, 6 femmes et 13 hommes. Ces miliciens ont également pillé plusieurs biens et emporté des vaches dont le nombre n'est pas encore déterminé. Ces attaques ont suscité des réactions des acteurs de la société civile et des notables qui dénoncent ces tueries à grande échelle après plusieurs mois d'accalmie observée dans la région. Ils dénoncent également les retards pour l'effectivité du programme de désarmement et démobilisation par les gouvernements. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans la province de la Tchopo, le ministre des Transports et Voies de Communication a lancé officiellement hier mardi à Kisangani les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Bangoka. C'était en présence des autorités politico-administratives locales ainsi que celles de la régie des voies aériennes. En quoi consistent ces travaux? En combien de temps seront-ils réalisés? Et quel en est le coût? Élément de réponse dans ce reportage de Jacques Moukonkoli.
Ces travaux consistent à l'élargissement de la piste d'atterrissage à une largeur de 60 mètres et une longueur de 3500 mètres. Il sera également question du renforcement et de l'extension du tarmac ainsi que du balisage. Pour le ministre des Transports et Voies de Communication, Chérubin Okende, la politique du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le domaine aéronautique, vise à redorer l'image du pays dans les concerts des nations et les tirer du désenclavement dans le domaine de la circulation aérienne. Pour sa part, Madrène Komba, gouverneur de province, a exhorté l'entreprise chinoise Chinese Fest, qui exécute les travaux, à les réaliser avec conscience. Le coût global est évalué à 19 millions de dollars américains, un financement conjoint de la Banque africaine de développement et du gouvernement congolais. Les travaux seront exécutés en 5 étapes et s'étendront jusqu'en 2023. Ici, tout le monde est unanime à reconnaître que la réhabilitation des sites aéroports aura un impact positif aussi bien sur le trafic aérien de la province que sur son économie. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Au Kwilu, les paysans du territoire de Bulungu éprouvent d'énormes difficultés pour évacuer leurs produits agricoles, à savoir le manioc, le maïs, l'arachide et autres, vers les centres de consommation dans la ville de Kikwit, de Kinshasa et ailleurs. Cela à cause de l'état de délabrement très avancé des routes de dessertes agricoles, comme le déclare l'administrateur de ce territoire. Bernardin Mwankimi pense que la concrétisation par le gouvernement central du programme de développement local des 145 territoires pourra décanter cette situation. Il est dit au micro d'Irène Boma.
L'état de nos routes actuellement, c'est vraiment dégradé, abîmé, détérioré. Ça pose des problèmes. La route de Bulungu, Makoso, et Kambulungu. Arrivé à la montagne de Kiyaka, c'est tellement abîmé. Nous arrivons encore à Makoso. Il y a un endroit là difficile qu'on appelle Moutiang. Donc là, c'est vraiment tellement abîmé. De Bulungu, secteur Nko, et vous sortez Mukinzi pour arriver au Kambulungu. L'espace là, donc tronçon Kingwaya, Bulungu, ça pose problème. Donc pour le moment ici, évacuer les produits agricoles au chef-lieu du territoire de Bulungu ou bien dans nos villages, dans nos secteurs, ça pose problème puisque les routes de dessertes agricoles abîmées. Quand les routes sont abîmées, comment on va évacuer les produits agricoles des villages au centre de consommation? Pour la réhabilitation des routes, nous demandons au gouvernement national de concrétiser le projet de PDL 145 territoires. Là, je pense que les gens auront la facilité d'évacuer librement leurs produits dans des centres de consommation.
Plusieurs coins de la RDC sont déstabilisés par des pluies diluviennes qui occasionnent des dizaines de décès, des destructions des habitations, des inondations, des routes coupées et tant d'autres dégâts. Certains députés ont, dans leur motion d'information au cours de la plénière d'hier mardi, sollicité l'intervention du gouvernement pour venir en aide aux populations victimes de ces dégâts de pluie. La situation est plus préoccupante dans les Sankuru, le Tanganyika et le Sud Kivu. Pour le député national Jean-Claude Kibala, à cette misère causée par les dégâts de pluie à Kamituga dans le Sud Kivu, vient s'ajouter plusieurs autres difficultés occasionnées notamment par l'exploitation désordonnée de l'or. Le député Jean-Claude Kibala est au micro de Michel Kifindangoy.
Dans la nuit du lundi au mardi, une pluie diluvienne surprit la population de Kamituga en pleine nuit. Le bilan actuel nous renseigne de 16 morts et plusieurs maisons détruites dans ce coin de la République où il y a déjà énormément beaucoup de problèmes. La route numéro D qui relie la capitale du Sud Kivu, la ville de Bukavu, à la ville de Kamituga est totalement détruite. Il y a peu de temps ici, revenir sur la question de l'exploitation minière, c'est toujours à Kamituga où les entreprises ont détruit les champs, les étangs, les maisons des citoyens à la recherche de l'or. Et jusque-là, le gouvernement n'a pas encore indemnisé les personnes sinistrées. Et donc, c'est une situation catastrophique de plus pour cette population sinistrée. Et nous sollicitons que le gouvernement puisse se mobiliser pour apporter une assistance humanitaire à cette population.
Au Kasaï oriental, deux semaines après l'arrivée en Mbujimayi des 5 bus de la Société de transport du Congo Transco, aucun programme n'est jusque-là annoncé autour du transport des personnes sur la ville. Les habitants de Mbujimayi se plaignent de constater que ces bus ne sont toujours pas affectés à leur transport. Des explications avec Esther Ndalafina.
Depuis l'arrivée des bus Transco en Mbujimayi, aucune annonce n'a été faite sur les lignes pouvant être desservies ainsi que le prix des transports en commun. Pourtant, la présence de ces bus avait suscité la joie des habitants de la ville diamantifère. Certains n'ont pas hésité d'exprimer leurs inquiétudes.
On nous avait dit à l'arrivée de ces bus que ça devait faire les transports interurbains, c'est-à-dire ça devait faciliter d'abord les transports des habitants de la ville de Mbujimayi. Mais en notre grande surprise, nous avons appris que les bus ont commencé les transports de Mbujimayi, Mweneditu, Mbujimayi, Boya. Alors qu'ici en Mbujimayi, si la ville, on n'a pas encore vu ces bus là-bas faire les transports. Alors que nous avons un problème de transport ici.
On s'attendait à voir les bus en circulation dans la ville. Le gouverneur calme, il dit rien.
D'autres encore vont plus loin jusqu'à déterminer les lignes pouvant être desservies par ces bus.
Nous voulons que les bus fassent un peu de transport de Kalalawanga à Bakwadianga, Bakwadianga, Mama et Moudileji pour faciliter aussi même les étudiants qui quittent par exemple Bobila pour aller étudier à Chikam. Maintenant, les étudiants et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que le bus là, on ne le voit pas.
Des sources proches de la mairie signalent qu'aucune rencontre n'est tenue avec les gestionnaires de bus pour organiser le transport des personnes sur la ville de Mbujimayi. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Kapi.
Actualité internationale.
L'auditeur général des Somalis, l'autorité indépendante chargée de vérifier le compte de l'État, a épinglé hier mardi 22 novembre l'ancienne administration du pays de l'ex-président Mohamed Farmadjo dans son rapport annuel pour l'année 2021. Selon lui, ce sont plusieurs dizaines de millions de dollars empruntés qui ont été dépensés ou perçus par des voies irrégulières et de nombreuses pratiques financières illégales qui sont pointées du doigt. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa connaît son adversaire pour prendre la tête de l'ANC. Le parti au pouvoir se réunira du 16 au 20 décembre pour renouveler sa direction. Cyril Ramaphosa brigue un second mandat et devra affronter son ancien ministre de la Santé.
L'invité.
L'invité de ce journal est le coordonnateur du pool Grand Kassai de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural. Damien Toambilangane rassure que la province du Kassai central peut avoir du courant électrique dans 18 mois à partir de la chute Mbombo à 17 km de Kananga. Il s'entretient avec François Kadima.
Monsieur Damien Toambilangane, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui est né un mouvement de jeunes qui porte le projet Chute Mbombo. Et ces jeunes disent que voilà, il est possible de passer par cette alternative pour avoir du courant au Kassai central, particulièrement dans la ville de Kananga. Pour eux, les études ont été faites. Parlez-nous de ce qui est fait sur Chute Mbombo, parce que les jeunes ont vu en serre faire quelque chose.
D'abord, moi, je salue la naissance de ce mouvement qu'ils appellent, je crois, dynamique Chute Mbombo. Ça, c'est une très bonne chose. C'est un signal que la population voudrait s'approprier des réalités de sa province. Alors, nous pensons qu'ils ont raison. Au niveau de Chute Mbombo, même déjà à l'époque, on parlait de Katende 2 avec la Codesco et tout ça. Des études ont déjà été faites, plusieurs études ont déjà été faites sur le site Mbombo, qui montrent que le site a un potentiel de plus ou moins 20 mégawatts. Mais par rapport à la synthèse des études que nous on a faites maintenant, nous partons avec 12 mégawatts d'abord et puis le reste pourrait venir après. Et à ce jour, nous avons à notre disposition non seulement les vieilles études sur Mbombo, mais nous avons la synthèse d'études aujourd'hui parce qu'on a pris ces vieilles études qui ont été mises à jour avec les nouvelles technologies, avec les finances et tout ça. Ça, c'est déjà une chose. Ça veut dire, côté études, c'est déjà quelque chose d'intéressant et d'acquis. De l'autre côté, il y a des partenaires techniques et financiers. Vous savez, on a libéralisé le secteur d'électricité et libéralisé. Toutes les sociétés ou toute personne peut aujourd'hui construire son aménagement hydroélectrique ou solaire, commencer à vendre de l'électricité. C'est dans ce contexte-là aussi qu'Anser a la mission d'accompagner les privés qui viennent dans le secteur et même, d'ailleurs, on a même un fonds pour accompagner ces privés. Et dans les cadres de Chute Mbombo, nous avons plusieurs sociétés privées intéressées. Il y a un engouement, en fait. Plusieurs sociétés privées intéressées ayant les moyens pour pouvoir entrer dans ce processus de construction de l'aménagement hydroélectrique de Mbombo.
Alors, pour Mbombo, l'étude a démontré qu'il est possible de travailler sur quelle période et pour quel coût?
L'étude montre que les travaux de la centrale hydroélectrique de Mbombo pour 12 MW peuvent s'étaler sur 18 mois. Dès que toute la paperasse est prête, dès que les contrats sont signés, et maintenant on commence les travaux, 18 mois sont suffisants pour pouvoir produire les 12 MW. Mais tout en sachant que les 12 mégawatts, on les produit dans la même période progressivement, avec une turbine de 3 mégawatts, 3 mégawatts, ça veut dire que déjà, au bout d'une année, on peut avoir déjà 3 ou 6 mégawatts avec les premières turbines qui sont installées. Donc, en 18 mois, nous avons la possibilité d'avoir les 12 mégawatts sur le site Mbombo. Ça, c'est la première chose. Et le budget global estimé par rapport et à la production et à tout ce qui est électromécanique et le réseau qui a déjà même été étudié est estimé à plus ou moins 35 640 000 dollars. Et ce budget est disponible au niveau des partenaires techniques et financiers. Mais au-delà de ça, nous, on a même fait nous-mêmes une démarche au niveau même des banques. Il y a certaines banques qui se sont engagées, qui sont prêtes à pouvoir mettre des millions sur la table. Nous avons fait des démarches aussi au niveau, et c'est en cours encore, hein, au niveau de notre ministère des Finances, parce que nous nous disons qu'il faut aussi quelque part que l'État congolais participe, même si les partenaires techniques et financiers ont tous ces moyens.
Selon la planification, si il faut parler des travaux, les choses peuvent débuter quand?
Vous savez, les choses sont en train d'aller très vite. Moi, selon les prévisions que j'ai devant mon tableau, si toute la paperasse qui peut prendre plus ou moins un mois maximum, si toute la paperasse est faite, travaux peuvent commencer à la fin du mois de janvier. 1er février, les travaux peuvent commencer et puis on compte 18 mois. Tout en sachant qu'avant la fin de l'année prochaine, on peut déjà avoir la première turbine, la deuxième, qui commence déjà à desservir, mais on va bien compter les 18 mois. Donc si toute la paperasse... Alors maintenant, c'est à ce niveau-là de la paperasse que je voudrais un peu m'apesantir, parce que nous rencontrons beaucoup de lourdeurs administratives. Vous voyez, je vous ai parlé l'autre fois de nos projets pour lesquels on a de l'argent, pour des projets des mini-centrales solaires et hydroélectriques, mais on a passé presque 4 mois au niveau de la Direction Générale de Passation des Marchés. Si nous ne rencontrons pas cette lourdeur administrative au niveau de la Direction Générale de Passation des Marchés, il est vraiment très possible que la paperasse aille très vite et nous souhaitons que le 1er février que puissent commencer déjà les travaux, vu que les études existent.
Monsieur Damien Tambilangani, nous vous disons merci.
Merci à vous.
C'était l'invité de ce journal, le coordonnateur du pôle Grand Kassai et de l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Damien Tambilangane était avec François Kadima. Fin de ce journal, merci de continuer à les réécouter sur toutes les plateformes digitales de Radio Kapi.